Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.
Alors vous savez qu'avec la réforme, on a redécouvert le salut personnel, c'est-à-dire qu'on peut, se placer seul devant Dieu et lui parler et que réaliser que Jésus est mort pour moi et entrer dans le salut directement comme ça avec lui. Ça, c'est une redécouverte à l'époque de la réforme. Alors, a contrario, ce qu'on peut peut-être oublier du coup dans ce volet-là, le fait d'avoir redécouvert à la fois la personne, l'individu, et le fait que Jésus est mort pour moi et que Jésus peut me sauver sans que je passe par des sacrements et autres qui me seraient prodigués. Si vous faites Alpha, vous allez peut-être entendre parler de ça, je pense, justement. C'est en fait, il y a un volet qui peut être incomplet. C'est le fait que, en fait, lorsque l'on entre dans le salut, eh bien, on incorpore un peuple. Alors, j'avais l'intention de me promener, mais du coup, je me sens un peu à l'écart là. Donc, vous me voyez un peu même hésitant dans ma prise de parole là. Hein? Tant pis. Je me sens exclu. Oh, merci pour votre compassion. C'était l'effet recherché. Ok. Bon, en fait, quand Dieu choisit, si on prend la Bible, j'ai essayé de feuilleter un peu la Bible et je me suis rendu compte en pensant à cette prédication. En fait, Dieu choisit un homme, il choisit une femme et il envoie systématiquement cet homme, cette femme vers son peuple ou pour son peuple. Je vous propose de prendre quelques exemples. Et donc, pour nous mettre dans l'idée que oui, Dieu me sauve, Dieu vient me chercher, mais ensuite Dieu m'incorpore à une communauté, à la communauté des croyants, à l'Église, à un peuple. Je crois que je vais changer de micro. Ça a l'air d'être bon. Décidément non. C'est vrai, mais je le sens qu'il se promène. Voilà, bon, quelques exemples. Moïse, par exemple. Moïse, Dieu lui parle et en fait, il l'envoie pour faire sortir le peuple d'Égypte. Voilà, il l'envoie vers le peuple. Un autre exemple, Déborah. Ça se trouve dans le livre des Juges. Déborah, c'est une prophétesse et c'est la femme, verset 4, chapitre 4, verset 4. Déborah, femme de Lapidot, qui était prophétesse, rendait la justice en Israël. En fait, le livre des juges, en fait, c'est une collection d'hommes, de femmes qui sont envoyés pour ramener le peuple d'Israël vers Dieu. Alors, parfois, on appelle ça le livre des juges parce que, en fait, par exemple, Déborah, elle était assise sous un palmier et puis le peuple venait la voir et puis lui demandait « Est-ce que tu peux trancher entre nous ?» Voilà, on est indifférents. Et donc, voilà. Et donc, c'est une prophétesse. Dieu lui parle et pour délivrer le peuple, en fait, de Yabin, qui était le roi des Canaans, et surtout de son chef militaire qui s'appelle Sisra. Et donc, Déborah va, et voilà, si vous lirez l'histoire, c'est dans Juges chapitre 4, elle délivre le peuple d'Israël. Un autre exemple, par exemple Esther. Tout le monde connaît l'histoire d'Esther. Elle est choisie pour sauver son peuple de la furie d'Aman, qui voulait en fait exterminer l'ensemble du peuple d'Israël. Vous voyez, chaque fois Dieu, et on pourrait multiplier la liste des exemples comme ça, elle pourrait être bien longue. Il envoie des prophètes, prophétesses, des libérateurs, c'est un autre terme qu'on utilise pour les hommes et les femmes du livre des juges, libérateurs. Et plusieurs rois aussi, on voit l'histoire de plusieurs rois dans la Bible, des prêtres qui sont aussi, qui ont pour certains écrit des psaumes. Eh bien, Dieu les envoie vers son peuple. Il leur parle, il les choisit et les envoie pour le bien de la communauté. Et cette notion, elle se retrouve aussi dans le Nouveau Testament. En fait, on voit trois services, on les appelle aussi les offices, qui sont répertoriés dans la Bible. Ces trois offices sont prophètes, prêtres et rois. Et une seule personne les récapitule en sa personne, c'est Jésus. Jésus, lui, va venir en tant que prophète, prêtre et roi pour accomplir le salut. Et il récapitule en lui-même ces trois offices qu'on voit répartis parmi d'autres personnes dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. En fait, c'est en vue de nous sauver que Jésus a quitté sa position céleste de roi des rois, de seigneur des seigneurs. Il s'abaisse, il vient en simple homme, en serviteur, en fait, pour réaliser le salut et pour nous sauver, les uns et les autres, pour nous ramener, nous qui sommes perdus, nous qui sommes égarés, nous qui sommes loin de Dieu le Père. Et il vient nous chercher pour nous sauver. Il agit de cette façon-là pour chacun d'entre nous personnellement, mais en fait en vue de nous rassembler. Rassembler en tant que peuple, et il y a de nombreuses images qui sont, ou vocables qui sont utilisés dans le Nouveau Testament dans ce sens-là. Jésus est le berger, il est le berger d'un troupeau. Voilà, un exemple. Il vient et il nous rassemble, synagogue, il nous forme en tant que synagogue, ensemble. Je change de micro, vraiment. Excusez-moi, la sono, c'est trop désagréable pour moi. Hop. Donc, un rassemblement de disciples, voilà il constitue Jésus. Donc, vous voyez, dès son ministère terrestre, il commence et il va et il prend des disciples et il les rassemble autour de lui et il forme ce noyau de communauté. Et avec ce noyau de communauté, il va commencer, c'est un embryon d'église qu'il commence. Et quand Jésus s'en va, cet embryon d'église continue de vivre et de se développer. L'église est un être vivant. C'est surtout pas une institution, c'est surtout pas un bâtiment, c'est un être vivant, constitué d'hommes et de femmes, et qui, génération après génération, grandit, se multiplie, prend différentes formes, s'adapte en fait en fonction des siècles, et l'Église est encore vivante aujourd'hui. Elle se développe, et elle est toujours en train de vivre sous le même mandat qui lui a été confié. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai transmis. Voilà le mandat que Jésus confie à ses disciples et qui est le mandat confié donc à l'Église et à nous aujourd'hui. Les disciples, c'est une communauté de croyants, ecclésia, l'Église. Un troupeau, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dont il est le berger. Et il est le roi qui règne sur son peuple. Voilà des images qui nous montrent que, plus largement, Jésus, le Père, le Saint-Esprit, eh bien, a sur le cœur, notre Dieu a sur le cœur, une communauté, un peuple, une Église. Constitué d'hommes et de femmes, de croyants. Ok. Et la communauté des croyants est appelée à grandir, comme j'ai l'habitude de le dire, en nombre et en qualité. À grandir en nombre et en qualité. Et pour ce faire, la communion fraternelle, la koinonia, eh bien, est au cœur de cette dynamique qui est voulue par le Seigneur. C'est pour ça qu'on a voulu avoir ce temps de partage. Et j'espère que vous avez pu faire connaissance les uns avec les autres, plus ample connaissance et même partager plus que le café ou le fromage ensemble, mais d'avoir des partages en faisant connaissance les uns avec les autres. C'est un des volets de la communion fraternelle. Qu'est-ce que c'est que la communion fraternelle? Alors justement, le psaume 133 dit « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Voilà. Ah, il fallait bien que je trouve un verset dans l'Ancien Testament quand même. Okay. C'est celui-ci qui m'est venu à l'esprit directement. « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Acte 2, 42 dit « Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. » Donc vous voyez que cette église qui est cachée encore, ou qui est en train d'émerger au grand jour, eh bien, passe du temps ensemble, en fait. Et puis Jésus a dit à ses disciples, Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Au fil des années de vie d'église, j'ai fait un constat que vous partagerez peut-être avec moi, c'est que, en fait, en tant que chrétien, en tant que tout simplement être humain, nous avons une propension à ne pas aller vers ceux que nous ne connaissons pas. C'est comme un réflexe. C'est s'il y a dans un groupe d'individus où nous entrons dans une pièce, quelqu'un que nous connaissons, vers qui allons-nous aller? Vers la personne que nous connaissons. C'est humain. Et en fait, si on n'y prête pas garde, eh bien, on peut avoir ce réflexe qui est constant, même dans notre vie d'église. Et donc, d'avoir une vie d'église plus large en nombre que les personnes que nous connaissons, et donc de ne vivre que dans notre petit cercle, qui peut être par exemple notre groupe de vie, par exemple. Ça, c'est les personnes avec qui nous sommes très proches. Et donc, lorsque on se rassemble pour le culte, par réflexe, eh bien, on va aller s'asseoir vers les personnes de notre groupe de vie. Voilà. Et puis, ou de partager le café et dire « Alors, ta semaine s'est bien passée » et d'aller vers les personnes de notre groupe de vie. C'est un exemple. Ou ceux avec qui on s'est formé pour le baptême, par exemple, et avec qui on a partagé pas mal de choses. Voilà. Ou alors les jeunes de notre âge, ou les vieux de notre âge. Ou alors, voilà, réflexe comme ça. Et si on n'y prête pas attention, eh bien, on va aller au week-end d'église et ne se retrouver qu'avec, alors qu'on va être encore en plus grand groupe, puisque le site de Sud-Est va être avec nous, eh bien, on va tout de même avoir le réflexe d'aller avec notre petit groupe. Et donc, on va être des noyaux les uns à côté des autres qui vont tourner autour de Jésus, mais on va pas se mélanger. L'idée, c'est qu'on apprenne à sortir de cette zone de confort qui est celle que j'ai essayé de décrire là, et donc ça nécessite d'aller un peu à contre-courant. Vous voyez, cette propension, ce réflexe, c'est comme un élastique. Et donc, on va avoir du mal à sortir de cette zone-là qui est confortable. Il faut le faire. Si nous voulons, en tant que communauté, eh bien, notre Église ici grandisse et en nombre et en qualité, il faut qu'on arrive les uns et les autres à sortir de ce réflexe, de cette propension, de cette retenue que nous pouvons naturellement avoir pour aller vers des nouveaux, des hommes, des femmes que nous ne connaissons pas. Peut-être des nouveaux qui franchissent la porte pour la première fois, peut-être qui viennent de faire Alpha et qui vont arriver dans notre Église, dans nos rassemblements, dans nos réunions de prière, dans notre culte, dans les rassemblements de jeunesse, dans le week-end d'église, etc., etc., etc. Tous les rassemblements que nous pouvons avoir, qui sont de tailles différentes, qui s'adressent à des personnes différentes, et d'aller les uns vers les autres. Alors, l'idée c'était... Après le culte, et après avoir dit ce genre de choses, et qu'on allait se rassembler au rez-de-chaussée, c'était qu'on donne un petit mot d'ordre. Allez, ne vous asseyez pas avec ceux et celles avec qui vous avez l'habitude de vous asseoir. Bon, les choses sont faites. Aléa, Jacques Taest, les dés sont jetés. Vous êtes tous assis, vous avez déjà tous mangé. Je m'étais dit, tiens, au moment de la prédication, je vais leur dire, allez, challenge, on se lève et on change de place. Mais quand je vois l'état des tables, je me dis que ça va être difficile quand même. Bon, peut-être une prochaine fois alors. Je ne sais plus où j'en suis. Ce que je voulais dire, c'est peut-être que vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je viens de dire, cette propension à ne pas aller vers les autres, mais alors à ce moment-là, peut-être que c'est parce que vous avez un don particulier qui est soit le don d'hospitalité, soit le don de l'évangélisation, soit un don de compassion, et donc vous avez une capacité naturelle ou surnaturelle d'aller vers les autres pour les accueillir, les mettre à l'aise, leur parler du Seigneur, ou alors de les écouter, pour le don de compassion, par exemple. Mais sinon, la grosse majorité, on est dans l'autre partie, quoi. Ça veut dire qu'il y a du travail, quoi. Je ne sais plus où j'en suis. Ouais, il y a du travail. Ouais, ça je l'ai déjà dit. Quoi. On va naviguer au travers dans la vie de l'Église. On va naviguer avec nos potes, quoi, nos amis, ceux qu'on aime bien, ceux avec qui on a des affinités, ceux avec qui on gratte la guitare, ou avec qui on chante, ou alors ceux avec qui on fait l'accueil, ou alors et si on n'y prête pas attention, eh bien on peut vivre la vie de l'Église en silo. Et ces silos peuvent être les différents services. Ça peut être l'équipe brunch, petit déj. Ils ont l'habitude d'être ensemble. Et puis ils font leur service, ils le font très bien, mais ils vont pas forcément se mélanger avec ceux qui conduisent la louange. Et on peut avoir comme ça des silos et avoir l'impression que l'Église, en fait, ça roule, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, mais est-ce que ça vit ? On veut plus que fonctionner. On a dit, une de nos valeurs, c'est des relations authentiques. Donc, on veut plus que faire fonctionner une vie d'Église, on veut la vivre. Et c'est pour cette raison qu'il faut aller au-delà de nos petits cercles relationnels ou nos petits cercles de service. C'est un challenge qui est sans cesse à remettre sur la table, parce qu'il y a cette propension justement à se retrouver dans cette zone de confort relationnel. Donc je veux nous mettre au défi, et quand je dis nous, je m'inclus dedans, Voilà. À sortir de notre zone de confort. Parce qu'en fait, cette posture, elle est antagoniste avec le désir que le Seigneur a pour son Église. De croissance en nombre et en qualité. Et comment des nouveaux peuvent-ils s'intégrer dans une vie d'Église où, qui fonctionne, mais qui ne va pas permettre en fait leur intégration, hein, si on n'y prête pas attention. Donc j'avais deux points, et je vais finir en les rappelant, deux exhortations. La première, c'est que Dieu nous aime, Dieu m'aime, Dieu t'aime, mais pas de manière isolée, pas seulement de manière personnelle, il nous aime les uns et les autres au milieu d'un peuple, au milieu d'une communauté au sein de laquelle il nous place. Alors si vous avez choisi que cette communauté ce soit CVV, bienvenue. Vivons-la ensemble alors. Et nous sommes invités aussi à élargir notre cercle relationnel, les uns et les autres. Essayons d'abattre nos réserves, d'abattre nos retenues pour aller vers des nouvelles personnes. Amen.
Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.